Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Nous recevons aujourd'hui une très grande dame du roman, une reine même, Irène Frein sera notre invitée. Nous visiterons la bibliothèque de François Bégaudeau, un plein de livres dans la librairie de Marie-Ève Charbonnier à Saint-Mandé. Et puis Sébastien Bordenave fermera la boutique avec deux bandes dessinées. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Fin du 19e siècle, en Californie, un jeune journaliste, plus malin que tout le monde bien sûr, pense que lui réussira à tirer les vers du nez du docteur Shaw, 75 ans. Or, il est loin d'être le seul à avoir essayé ces dernières années. Tous ont été priés de le laisser tranquille. C'est que le docteur Shaw a un trésor inestimable, une histoire à raconter. Comme Irène Frein, qui revient avec son nouveau roman Au Seuil, l'allégresse de la femme solitaire après l'immense succès d'Un crime sans importance, prix inter alliés. Mais donc maintenant, on passe à l'allégresse de la femme solitaire, F majuscule à femme, S majuscule à solitaire, je le précise, on va en parler. Bonjour Irène Frein.
Bonjour Nicolas Carreau.
Ça me fait plaisir de vous recevoir.
Et moi aussi. Alors, on est dans l'allégresse.
C'est absolument. C'est un roman, je l'ai dit, mais qui commence avec un petit avertissement à la première page que je vous lis. Comme la plupart de ses protagonistes, l'héroïne de ce roman a bel et bien existé. Son parcours a suscité l'intérêt, voire la passion, de nombreux chercheurs américains. Elle demeure malgré tout énigmatique, ce qui a récemment conduit l'un de ses chercheurs à déclarer « Ce destin est une page blanche en attente d'une fiction ». Et vous ajoutez une phrase à ne jamais prononcer devant un romancier ou une romancière.
Oui.
Comment ça s'est passé ?
Alors, ça s'est passé de façon étrange. Ma famille, celle que j'ai fondée, enfants et petits-enfants, vit dans une petite ville de la côte californienne. Son nom n'est jamais cité dans le roman, parce qu'elle n'avait pas franchement de nom à l'époque. C'est Santa Barbara. Alors, je précise, ça n'est pas, non, ça n'est pas celle du feuilleton.
Oui, oui.
Ça n'est pas celle non plus de la parodie Sainte Barbara.
Sainte Barbara. Pourquoi tu regardes ça,
voilà.
Les inconnus.
Alors, moi, je n'ai jamais regardé.
Non, c'est une toute petite ville en Californie.
Oui, c'est ça. Alors, maintenant, elle a grossi, mais elle a gardé son charme hispanique. Et au moment où l'histoire se passe, celle que garde si secrètement le docteur Shaw qui ne veut pas parler, elle s'est passée quelques dizaines d'années avant, en 1853, c'est une petite bourgade en voie de devenir une ville champignon.
On va en parler de ça aussi.
Et donc, j'ai découvert ça, j'allais rendre visite à ma famille pour Noël, très régulièrement, et un jour je suis aller entre des équipés dans les canyons pour faire de la marche avec les cannes, vous voyez aussi le Pacifique, les plages, les courses de Noël dans cette ville absolument charmante et puis des séances de cuisine française dans la barbarie gastronomique américaine, dans le cimetière de la mission de Santa Barbara, on me raconte très brièvement l'histoire d'une femme qui est arrivée à Santa Barbara, qu'on a recueillie, qui avait passé 18 ans dans une île toute seule et qui ne pouvait pas communiquer parce que personne ne comprenait sa langue, même pas les Indiens de la côte. Cette femme était indienne par ses traits, très différente de ceux de la côte, on ne connaissait pas son nom, et on l'a appelée la femme solitaire. Et elle était animée d'une joie extraordinaire. Voilà ce qu'on me raconte, et on me dit qu'elle est enterrée ici. Et là, je regarde ce petit cimetière charmant, avec des cactus, très étranges d'ailleurs, et je vois une plaque de marbre où il était inscrit « Juana Maria », on venait d'ajouter qu'elle avait été baptisée sous ce nom-là, et je me recueille. Et après, j'apprends que ce n'est pas du tout sa tombe, d'ailleurs, qu'on ne sait même pas où est sa tombe. Et tout ça me fait un effet étrange, surtout à Noël. Je trouve cette histoire à la fois magnifique et poignante, magnifique à cause de la joie, poignante parce que le mystère, pourquoi était-elle venue là, était-elle venue de son plein gré. Et puis, je regarde l'horizon des îles, puisqu'il y a des îles à l'horizon, et je me dis, c'est tragique, qu'est-ce qui a pu se passer. Et puis, Et puis, j'y pense plus. Et chaque fois que je reviens à Santa Barbara, toujours les mêmes rituels familiaux, malgré tout, quand je vois les îles, il y a quelque chose qui me tulpine, et puis, j'y pense plus. Et c'est lors du second confinement qui, pour moi, a été le plus difficile, parce que je ne pouvais pas retourner là-bas pour Noël. Je ne savais pas si je pourrais, quand je pourrais repartir en Californie, si j'allais jamais revoir ma famille. Il n'y avait pas de vaccin, il y avait beaucoup de tristesse. Et j'ai, pour conjurer ça, entrepris de ranger mon bureau. Je n'avais rien rangé, moi, pendant le premier confinement. J'avais terminé un crime sans importance. Et puis, je suis très vite interrompue parce que je découvre des notices que j'avais achetées, une ou deux, un bouquin pour enfants, une notice, en sortant de cette mission qui parlait de cette histoire. Et je ne les avais jamais regardées. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est vraiment que cette histoire ? Et je suis désœuvrée. Donc, je tape sur Internet et je tombe sur la version numérisée d'une chanson qu'avait chantée dans sa joie la femme solitaire et qui avait été mémorisée par un jeune Indien qui, des années plus tard, l'avait enregistrée pour une espèce de linguiste un peu cinglé qui enregistrait tout. Et là, j'écoute cette chanson. J'avais déjà compris par des textes des chercheurs que cette femme descendait d'une peuplade qui est arrivée là, sans doute parmi les premiers Amérindiens, qui remontaient 9000 ou 11000 ans. Et en écoutant ces 18 secondes, je suis saisie. Mais et c'est comme un foudroiement amoureux, je veux en savoir plus.
Elle est très célèbre, cette légende, aux États-Unis
elle
ou en Californie ?
Elle est très connue aux États-Unis. C'est pas une légende, c'est
oui,
une histoire.
Une histoire vraie,
mais elle est connue
mais
de façon légendaire.
Une histoire vraie légendaire, puisque
légendaire,
on sait pas
notamment
beaucoup de
par un livre pour enfants, que donc après j'ai lu, qui, pardonnez-moi l'expression, m'a paru tout à fait cul-à-praline et assez colonialiste. Bon, on fait d'elle une petite Robinson de 13 ans qui survit en parlant aux animaux. Enfin, puis c'est Mimi, c'est pas comment ça se termine, quoi. Elle revient sur le rivage et tout va bien. Et puis on oublie tout le reste. Et puis justement, je me dis, c'est sûrement pas ça. Et j'ai gratté, je trouvais les journaux de l'époque qui étaient également numérisés. J'ai commencé à chercher et je me suis dit, c'est un secret de famille de cette ville et c'est sans doute un secret de famille de l'Amérique. L'Amérique envers les Amérindiens.
Vous offrez à la fin une petite bibliographie des études qui ont été menées sur ce sujet. Et en fait, c'est la citation que j'ai lue tout à l'heure, la science historique, d'une certaine manière, a échoué à tout raconter. Et c'est le roman qui prend le relais, exactement comme dans Un crime sans importance, où vous enquêtiez sur l'assassinat de votre sœur, là où la justice avait échoué, et vous avez repris, par la force du roman, vous avez repris l'histoire et le film.
Alors là, c'est un roman, un pur roman. J'ai regardé tous les protagonistes de cette histoire historique, et j'ai surtout trouvé, il était à moitié suggéré dans les recherches très pas très longues de cette équipe de chercheurs, très nombreux. Ils avaient mis, comme les Américains font souvent, toutes les forces en commun, et en les recoupant avec les archives, parce qu'on avait des mémoires, mais j'ai fini par entrevoir ce que pouvait être une partie de l'énigme.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Irène Frein pour l'allégresse de la femme solitaire. C'est au seuil l'histoire du docteur Shaw qui se rappelle qu'en 1853, une femme comme ça avait débarqué sur une plage de Californie. On ne savait pas trop d'où elle venait. Enfin, si, plutôt, on savait qu'elle venait de l'île de Santa Cruz en face. Et elle a vécu pendant des années seule. Et donc, on ne comprend pas sa langue. Personne ne la comprend, y compris les Indiens du coin. Personne ne comprend ce qu'elle dit. Elle est très joyeuse. Pourtant, elle a beaucoup souffert. C'est une sorte de mystère. Et vous vous en êtes emparée, Irène Frein, de cette histoire vraie pour construire un roman. Parlons d'elle, présentez-la nous. Et d'abord, pourquoi vous avez mis une majuscule à femme et à solitaire dans le titre ?
Parce que c'est comme si on ne connaissait pas son nom. Pour une raison simple, les Indiens, les Amérindiens ne disaient, avaient l'interdiction de livrer leur nom. Ils avaient des noms secrets. Le nom qu'on vous donnait à la naissance devait être secret. Il y avait toutes sortes de méthodes de contournement pour donner un nom dans la vie quotidienne. Et donc, elle ne l'a pas livré et elle a été connue sur place sous le nom anglais de The Lone Woman. Au départ, c'était The Lost Woman, la femme qu'on avait perdue. Alors là, ça met la puce à l'oreille, parce qu'elle était peut-être solitaire, parce qu'on lui avait imposé cette solitude. Et je l'ai transcrit en La femme solitaire, et comme elle n'est connue que sur ce nom, sous ce nom qu'on y met des majuscules en anglais, j'ai mis des majuscules en français.
Alors, vous parlez l'espagnol, Irène Frein ?
Non, un tout petit peu.
Parce que la Californie, c'est un territoire, encore aujourd'hui, qui est empreint évidemment de culture et de langue espagnole, qui avait mis la main sur ce territoire avant les Américains. D'ailleurs, quand elle débarque sur cette plage, la Californie est à peine américaine encore. C'est le moment de l'indépendance, en fait.
Elle a été conquise par les, comme on dit à l'époque, les Yankees, les gens venus de l'Est, 3-4 ans avant. Et c'est un joyeux bazar. Se superposent les hispaniques de la conquête espagnole, les missionnaires qui étaient le fer de lance de la conquête espagnole, mais qui ont été dépossédés de leurs subventions par les Mexicains eux-mêmes mélangés d'Indiens, une autre culture, une seconde mafia qui se superpose à la première, puis les trappeurs américains qui avaient traversé dans les années 1830 tout le continent nord-américain en trucidant en passage quelques Indiens et rapportant des scalps qu'ils portaient sur leur dos ou comme couverture pour se chauffer le soir, et qui sont des hommes extrêmement violents, extrêmement durs, et qui vont se dire on est à l'ouest, mais on va conquérir l'ouest de l'ouest, c'est-à-dire les îles, où ils vont continuer leur sauvage métier de trappeur, précédé en cela par les Russes. Et puis, il y a des gens qui sont cassés un peu la figure dans la ruée vers l'or, et les Yankees qui, eux, arrivent avec la loi. Il s'agit d'imposer la loi à ce joyeux bazar. Et puis des cadastres, les rues qui se croisent à angle droit. Et donc aussi, tout ce qu'on sait sur la loi américaine. Faut pas rigoler avec la loi américaine. Simplement, les autres veulent pas. Et au milieu de ça arrive la femme solitaire. Donc vous imaginez, elle avec sa joie, elle va ramener chacun à son passé, à ses idéaux, souvent ses sales petit tas de secrets.
Mais je vous demandais ça parce qu'il y a un gros travail sur la langue. Il y a des expressions en espagnol comme « quien sabe », qui veut dire « va savoir ».
Va savoir, ça se dit beaucoup dans les pays latino-américains d'Amérique du Sud.
Mais il y a aussi tout un travail sur le langage qu'on ne peut pas dire puisqu'on ne le comprend pas. C'est-à-dire qu'elle parle un langage qu'on ne comprend pas. Il comprenait ce qu'elle disait, demande un des personnages. Non, il devinait. Elle parlait au vent, elle lui demandait de se calmer. Elle imitait le vent ? La petite ne sait pas, mais elle maintient. Elle parlait au vent et le vent lui a obéi. La tempête s'est calmée. C'est mon père qui me l'a dit. Il m'a même juré. S'il m'a juré, c'est que c'est vrai. Comment fait-on parler un personnage qui parle une langue que personne ne connaît ?
Par ce que croient comprendre les gens. Voilà. Et on a autant de voix VOIX qu'il y a de personnages. Et l'approche la plus juste, à mon avis, a été celle du Dr Shaw, des enfants et des Indiens. Pourquoi ? Parce que c'est l'approche de l'empathie. Et on comprend beaucoup par l'empathie ce qu'on appelait autrefois le cœur. Et là, je crois aussi, en même temps que le cœur, il y a l'attention, l'observation des gestes. Et puis, la femme solitaire parlait par le regard et elle faisait aussi des mimes. Donc, si vous êtes en attitude d'accueil, vous pouvez comprendre. On le sait, c'est vrai aussi, et s'il y a des soignants qui nous écoutent, ils savent qu'on peut comprendre un malade qui est privé de la parole momentanément ou, hélas, quelquefois définitivement, ce qu'on appelle un malade mental, la désignation, on peut la discuter, c'est pour ça que je mets entre des guillemets, par l'empathie et une extrême attention. Et elle aussi, elle est immensément empathique, comme tous les êtres qui viennent des temps premiers. Elle est en empathie avec la nature, elle est en empathie avec les... Elle a des antennes, comme on dit maintenant, elle a une sensibilité, et elle arrive à décoder la situation. Et il faut dire qu'elle a été pendant 18 ans en situation de survie solitaire. C'était pas Koh-Lanta, il n'y avait pas une équipe de télé pour l'évacuer en cas de pépin.
Ce qui est d'autant plus étonnant, de la voir chanter et être joyeuse sans arrêt. Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été pervertie par une forme de société ? Parce qu'elle était justement en dehors de tout, seule ? Qu'elle n'évoque pas la douleur comme le reste du monde ?
Je pense que c'est parce qu'elle a décidé à un moment
parce qu'elle a beaucoup souffert
de partir. Elle a choisi de partir. on lui a fait la proposition, mais il a bien vu ce qu'il y avait derrière. Enfin, je ne reviens pas là-dessus, hein, on découvre dans le livre. Et que c'est la liberté. Et elle attend quelque chose de ce monde où elle a décidé d'aller. Et elle a l'attitude des paumes ouvertes. J'avais remarqué ça dans une archive, on parlait de ses paumes ouvertes. Elle accueille le réel dans sa globalité, les hommes qui sont là, et elle fait le pari que l'accueil, le sourire, la joie, sa propre curiosité seront reçus de la même façon. Alors vous imaginez bien que ce ne sera pas tout à fait de la même façon, il y a même des gens qui voudront l'embaucher dans des cirques, mais elle fait ce pari, je crois qu'elle a raison, parce que sur le tas, il y a des gens qui vont la comprendre. Et cette joie, c'est peut-être la plus grande énigme de ce livre. Ce seront les Indiens qui seuls comprendront, finalement, mais ils ne le diront pas, parce que la vie est faite de non-dits et que les Indiens couvent aussi leurs secrets, le diront à la fin. Elle attend quelque chose d'unique de ce rivage. Et finalement, c'est ça, sa grâce. Elle a subi des épreuves, mais la grâce l'habite et les gens la trouvent très belle, la trouvent évidemment indéchiffrable.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
La voix est libre, toujours avec Irène Frein. L'allégresse de la femme solitaire, c'est son nouveau roman au seuil, l'histoire d'une femme qui débarque de l'île de Santa Cruz un jour sur une plage de Californie en 1853. Il y a là le docteur Shaw qui arrive sur son cheval. Et elle le prend pour un centaure, c'est-à-dire
cette
mythologie comme cheval.
Elle
n'a jamais vu quelqu'un monter sur un cheval, donc ça lui paraît complètement étonnant. Elle a passé des années seule, elle arrive comme ça, elle débarque dans le monde, en fait, ce qui peut être éventuellement un danger biologique, parce qu'elle n'est pas forcément habituée à se défendre contre les microbes des sociétés comme ça. Mais surtout, alors je ne voudrais pas faire une analyse littéraire un peu idiote, un peu tirée par les cheveux, mais quand même, c'est un être... chimiquement pur, je veux dire, c'est le symbole du personnage de littérature, mais dans la réalité, parce que je rappelle que c'est une histoire vraie. Elle débarque comme ça, on ne connaît pas son histoire, personne ne connaît son histoire, et petit à petit, on la découvre et on la crée, comme un écrivain crée l'histoire d'un personnage.
J'avais trouvé des reproductions des objets qu'elle avait emportés. Elle avait emporté beaucoup de choses, ça veut dire qu'elle avait décidé de quitter son île, en fait. Bien qu'on soit venu la chercher, elle a choisi de suivre. Et j'ai trouvé des reproductions. On en a conservé deux ou trois dont j'ai vu les photos, puisque je ne pouvais toujours pas aller en Santa Barbara, moi, pendant l'écriture. Donc, je me télétransportais à Santa Barbara et dans les musées. Et on avait de brèves descriptions de ce qu'elle était. Donc, moi, j'ai extrapolé. Je savais comment elle avait survécu, en pêchant, en chassant. Elle s'était fabriqué une robe de plume en tuant des cormorants. Ça n'a pas beaucoup dépeuplé l'île de cormorants. Je crois qu'elle avait juste deux robes de...
robe et cape.
Oui, robe et cape. Et une tunique, vous voyez. On n'était pas dans la pollution du fashion. Fashion pollution.
Ah, c'est pas la garde-robe de Kim Kardashian, c'est
sûr. Ah ben non, c'est ça. Et si vous voulez, oui, je pense que vous avez raison de dire ça. Elle vivait en symbiose avec la nature, mais quand elle arrive, elle est curieuse de tout. Elle découvre une chapelle, elle découvre des madones, vous savez, mexicaines qui ressemblent à des papillons épinglés sur des tableaux. Elle s'étonne de tout, c'est-à-dire qu'elle est curieuse et elle veut, comme toute personne confrontée à la survie, décoder pour s'adapter et survivre. C'est aussi un modèle d'adaptation. Est-ce que nous aurions été capables, nous serions capables de faire ça si nous étions télétransportés chez des extraterrestres? On serait dans son état, mais est-ce qu'on aurait la force mentale de décoder? Elle m'a impressionnée par sa force mentale. Donc évidemment, je la vois à travers le regard des différents personnages dont vous allez pas parler. Et évidemment, certains lui paraissent terrifiants, mais elle les affronte et elle va reconnaître certains, elle va les démêler jusqu'au fond de l'âme.
Il faudra lire pour savoir, mais quand même, au début, le docteur Shaw, comme je l'ai dit tout à l'heure, il refuse de raconter son histoire.
Oui, il est
bloqué. Qu'on a entendu parler de ça, on ne sait pas bien si c'est vrai. Il y a eu quelques articles de journaux à l'époque. Et puis, donc, il y a d'autres journalistes qui viennent le voir. Et à chaque fois, il se débrouille pour les éconduire.
Oui.
Pourquoi il ne veut pas raconter cette histoire? Et pourquoi il finit par la raconter?
Oui, se la raconter sous les yeux de l'étoile qui sait tout. L'étoile des Indiens qui sait tout. C'est aussi peut-être l'étoile des Indiens qui sait tout, qui raconte l'histoire. Ben, moi, je suis très... j'ai trouvé cet homme... je l'ai fait un peu à l'image de ce que je peut par moments comprendre de moi aussi. Moi, je suis très volubile et très présente au monde, mais j'ai des moments qui peuvent être assez longs où je n'ai pas du tout envie de parler, et j'ai fui longtemps certains souvenirs, et notamment d'enfance, et j'ai nié certaines blessures, et j'ai pu être cette personne qui n'arrivait pas à communiquer avec les autres. Et j'ai vu aussi des êtres comme ça. Il y a un certain nombre d'écrivains qui sont ainsi, vous devez en rencontrer de temps en temps, qui n'arrivent pas à communiquer, qui n'arrivent qu'à communiquer qu'à travers l'écriture, et pour qui l'écriture est une immense douleur. Et ce livre, mes livres donnent souvent l'impression d'une grande évidence et fluidité, mais je refais souvent 15 versions et j'ai tellement honte que je refais avant de rendre à l'éditeur. Et c'est compliqué de fabriquer du vrai romanesque, vous voyez. Et lui, il a envie de confier ça à la plume parce qu'aussi il a des blessures personnelles. J'aimais un homme de la quarantaine, solitaire, mélancolique, il a perdu sa femme, il ne surmonte pas ce deuil, et qu'une autre femme vient déranger dans cet enfermement dans la solitude, et lui va retrouver le monde grâce à elle. Et c'est un médecin, et c'est un médecin empathique, et ce qui lui permet de communiquer avec le réel, c'est l'empathie pour les autres, le soin. Il est ces médecins qui étudient les corps pour comprendre les âmes et qui voient bien le rapport entre la maladie et la psyché. Et il a existé au XIXe siècle déjà beaucoup de médecins comme ça. Et je trouve que ces médecins se raréfient. Moi, j'en ai rencontré qui m'ont fait beaucoup de bien. Et c'est sans doute aussi ça qui est passé. Mais alors ça, c'est fait tout à fait inconsciemment.
Un mot sur l'enquête, puisque, donc je l'ai dit, il y a une bibliographie à la fin. Et puis on sent que vous connaissez l'histoire, la vraie, par cœur avant de vous lancer dans une fiction. Dans Un crime sans importance, le précédent, vous aviez carrément enquêté comme une policière. Hein, c'est-à-dire que...
Oui, sauf que je ne pouvais pas être policière parce que c'était ma sœur. Mais...
Et dans d'autres de vos livres, vous avez aussi enquêté. Mmh. Vous aimez ça, vous avez besoin de ça aussi pour construire une fiction. Il faut que vous soyez sur le terrain, il faut que vous soyez un peu Sherlock Holmes.
J'aime le terrain. C'est en ça que j'ai été formée à Paris Match. Et j'écris encore pour Paris Match. On m'a expédié très tôt sur des... Moi qui étais enseignante en Sorbonne, etc. C'est Roger Théron qui m'a envoyé sur le terrain. L'un de mes premiers reportages avait été la prostitution rue Saint-Denis, vous voyez. Et c'était rude de passer des nuits avec les prostituées, mais je l'ai fait, je trouvais ça passionnant. Et j'ai toujours été convaincue, petite fille, que le réel cachait la vérité. Et qu'il fallait gratter, faire exploser l'écorce trompeuse du réel pour aller à la vérité. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a l'enquête d'investigation journalistique et ses méthodes que j'ai apprises dans le groupe Lagardère, il faut dire les choses comme elles sont, avec Paris Match, et qui m'ont passionnée. Ça étonnait parfois certains. Pourquoi les pains Sorbonne encore voilà, à parler de la notion du temps chez les poètes latins du 1er siècle avant Jésus-Christ. Non, il y a plusieurs vies dans la vie. Et puis, il y a ce autre mode d'exploration du réel qui est le roman. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit communément, l'imaginaire est l'un des raccourcis les plus fantastiques pour rejoindre la vérité, et notamment les non-dits. Et là, il y avait des gros non-dits que, effectivement, les Américains ne pouvaient pas dire. Fallait pas formuler ni écrire.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, partie 4. Il est l'heure de visiter une bibliothèque. Nous sommes toujours avec Irène Frein, qui publie L'allégresse de la femme solitaire au seuil. Et François Bégodeau, lui, publie Ma cruauté, c'est chez Vertical. François Bégodeau, qui est écrivain, bien sûr, mais qui est aussi, ça je le savais, un grand érudit de littérature, et j'étais vraiment très curieux de voir de quel livre il se chauffe. Allons-y. Bonjour François Bégodeau.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous, devant votre bibliothèque, qui est en fait un mur de l'appartement entier.
Ouais.
Juste pour décrire pour les auditeurs, il y a un bureau avec un ordinateur allumé, avec un texte au milieu. J'ai pas osé regarder, mais ça doit être un livre en cours, non ?
C'est une pièce de théâtre que je suis en train de finir, ouais.
On peut en parler ou...
C'est une pièce que m'a commandée une amie sur Le Maître ignorant de Jacques Rancière. elle voulait une adaptation théâtrale de ce livre qu'on adore tous les deux. Donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup lu, relu. Et donc voilà, je me suis mis sur ce truc qui est un peu compliqué parce que c'est un livre un peu théorique, quoi. C'est Rancière, c'est de la philo. Mais c'est de la philo narrative. Il raconte une expérience de pédagogie du 19e.
Ah, donc c'est l'expérience, la pièce de théâtre ?
Bah, disons qu'on essaie de restituer cette expérience, puis on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut en penser maintenant, comment on pourrait la rejouer, comment, enfin, c'est un peu, c'est une pièce un peu, c'est une comédie philosophique, on va dire.
Il y a aussi évidemment écharpe et maillot de foot. Alors il y a deux écharpes qui n'ont aucun intérêt, puis il y a le maillot du FCNA.
deux écharpes, c'est quand même Manchester City et Liverpool, donc quand même ça se pose là quand même.
Ouais, surtout, je suis nantais,
surtout en ce moment. Oui, moi aussi. Et c'est trois cadeaux, ça. C'est des cadeaux au gré. Ça, c'est un maillot originel de Nantes. C'est le maillot de l'équipe championne de 95, la fameuse Wedek, Loco, compagnie. J'étais abonné à l'époque, donc j'ai vu tous les matchs.
Il y a un maillot FCNA européen aussi, vous savez.
Oui, alors ça, c'est encore avant. Moi, je l'avais eu, ça, pour mon anniversaire de mes 10 ans, quand j'étais petit. Ah bah, oh là là, je ne sais pas ce qu'il est devenu.
Ah ouais, pourtant, c'est des reliques, ça, pour vous, non ?
Ouais, mais si on commence à tout garder, là, je...
Et alors, c'est le principe de l'émission, mais là, on vise juste parce que la bibliothèque reflète quand même carrément le personnage. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des DVD, des CD de musique, et puis, bon, beaucoup de livres. Tout est là, quoi.
Ouais, bah, on peut dire que c'est un peu mes trois piliers, ouais, c'est vrai, depuis toujours, depuis longtemps, depuis l'adolescence. Très vite, je me suis intéressé au cinoche, au rock notamment, à la musique populaire, je dirais, et puis bah, au bouquin. C'est arrivé tout en même temps, ça, vers quand j'avais 14-15 ans.
Alors, on ne le voit pas à la radio, mais bon, ça sera c'est mon métier de le décrire, mais...
c'est le bordel.
Quand je suis entré, je me suis dit, ouais, il y a du boulot, parce que c'est la première fois que je vois ça, qu'il y a des... pile de livres devant la bibliothèque en elle-même, devant le meuble. Quoi. Ouais. Donc c'est très compliqué pour retrouver un livre. Comment vous faites ? Vous savez où chaque livre est ?
Non, j'ai pas cette espèce de pointillisme-là ou de maniaquerie, mais je le regrette des fois parce qu'il m'arrive de vouloir retrouver un livre, ne serait-ce que pour regarder un peu, je sais pas, une citation, retrouver un passage, et je rame un peu. Mais là, c'est plutôt un manque de place, en fait, parce qu'on est quand même dans un 42 mètres carrés, c'est quand même pas énorme, même si j'habite tout seul. Et je reçois beaucoup de livres, j'en achète encore beaucoup. Donc ça a fini par s'accumuler. Donc il y en a aussi par terre, il y en a sur mon bureau. Enfin c'est le bordel, ouais.
Donc ça vous est déjà arrivé d'aller racheter un livre faute de le retrouver, quoi.
Ah ben ouais, il y en a même que j'ai racheté. Je pense que Racine par exemple, qui est un de mes auteurs, disons, on va dire de chevet. J'ai dû racheter 5 fois Phèdre, 4 fois Britannicus. Moi là j'ai théâtre complet, donc au moins c'est pas mal, quoi. Ça permet de.
Et alors Racine, pourquoi lui ? Pourquoi ? En plus, alors, c'est le livre qui est dont la couverture est frontale, quoi, ouais, par rapport aux autres livres. Est-ce que c'est une hiérarchie ?
Non, ça se veut pas vraiment ostentatoire. Genre, regardez, j'aime Racine, mais il se trouve que celui-là, j'ai dû le réouvrir il y a pas longtemps parce que je relis souvent Racine. Ça fait peut-être un peu précieux et pédant de dire ça, mais c'est vrai que bon, enfin, j'ai rencontré Racine au lycée. Ça, c'est voilà, on l'étudie pas mal et ça m'a un petit peu percuté. Je crois que j'avais lu Britannicus.
Vous êtes cagneux, vous.
Ouais, alors après, je pense qu'en Hippocane, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de racines. Mais moi, ça m'est venu. Et après, je le relis très souvent parce que le vers racinien me paraît une espèce de perfection stylistique. Par ailleurs, j'aime bien le psychologue Racine. Ah. Je trouve qu'il est très fort en psychologie.
Et c'est quoi l'enjeu de sa psychologie ?
Ah, ben il va chercher loin dans les affects, quoi. Dans les affects paradoxaux, dans les affects mélangés, dans la cruauté mélangée avec l'amour. Je trouve que alors là, il y a tout pour moi, la vie psychique de l'humain, mais dans sa complexité, quoi. Ce que moi, j'aime bien explorer dans mes livres, ou que j'aime bien retrouver dans les romans. Sauf que lui, il va parfois ramasser une complexité psychologique en un alexandrin, quoi. Ce qui est pour moi un modèle de concision. Voilà, qui est pour moi un peu la martingale littéraire, c'est d'arriver à frapper comme ça, en une phrase, une analyse psychologique que d'autres feraient en 3 pages, quoi.
Mais c'est vrai que c'est pas le plus punk, Racine.
Ah, pour moi, si.
Si.
Après, le mot punk, je sais pas ce qu'il veut dire.
Oui, hein. Après, on trouve toujours des
mais
symboliques.
En tout cas, je trouve que c'est extrêmement subversif. Psychologiquement, c'est subversif.
Ouais. Pour l'époque ou aujourd'hui encore ?
Ah, maintenant, oui, encore maintenant, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Je trouve qu'il va dans les... C'est-à-dire qu'il a... c'est un théâtre de la cruauté, quoi. Donc, il a peur de rien. Il a pas peur d'aller dans le vrai. Et le vrai, parfois, est obscur et un peu opaque, un peu étrange. Le sublime côtoie avec l'abject, parfois dans le même geste. L'amour qui est un beau sentiment fait parfois faire des choses absolument ignobles, c'est ce qu'on voit dans tout le théâtre de Racine. Plus on est amoureux, plus on est passionné, et plus on est méchant, brutal. C'est évidemment le cas de Néron, mais c'est le cas de tout, à peu près tous ces personnages. Quoi.
Je parle de punk parce que en fait, j'avais eu l'idée, bon, parce que vous publiez un nouveau roman, mais c'était l'occasion, mais aussi je me souvenais de l'anti-manuel de littérature, qui est un livre que vous avez publié en 2008. C'était quoi l'idée, si vous pouvez nous rappeler le
principe? Bon, d'abord, c'est une commande, hein, parce que la collection existait. Il y avait des anti-manuel de philo, dont Frey, il y avait un anti-manuel d'écologie, je crois, de sexualité. Voilà. Il m'avait demandé, en fait, les gens de Bréal à l'époque étaient venus me voir en me disant voilà, on pense que tu es le bon client pour écrire un anti-manuel de littérature. Je trouvais que c'était un peu une montagne quand même, mais j'ai réfléchi, puis je me suis dit oui, il y a peut-être moyen de faire un livre à la fois sérieux et léger.
Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que je me suis dit, ah, il va démonter plein de trucs et tout. Et en fait, non, c'était juste une collection de super romans.
Disons que ce que je... Moi, je voulais pas avoir... je voulais pas que ce soit caustique et déconstructeur, même si je m'en prenais à certaines conceptions de la littérature que je trouve... Il arrive qu'on voit la littérature de façon tellement monumentale qu'on oublie de la lire, quoi, et qu'on oublie de voir ce que c'est exactement que la littérature. Donc, dans un premier temps, je déconstruisais un petit peu des discours que je trouve un peu empoulés sur la littérature. Et puis après, ouais, c'était plutôt des exercices d'amour sur mes écrivains préférés de l'époque, qui d'ailleurs le sont restés. Hein. Je pense que je me souviens qu'il y avait Gombrowicz, il y avait Racine, il y avait Diderot, enfin parmi les auteurs que je peux vraiment adorer et fréquenter, qui sont un peu restés les mêmes, quoi. Mais j'essayais, moi, d'être ce que j'essaie de faire un peu en critique littéraire aussi, mais j'en fais moins maintenant, d'être le plus précis possible, quoi. C'est-à-dire, par exemple, de prendre des phrases. Par exemple, je prenais l'exemple très, très, bateau, pratiquement, de la première phrase de La Recherche. Bon, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Bon. Alors, c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est intéressant de s'arrêter sur cette phrase et de se demander, mais pourquoi c'est fort, quoi? Pourquoi c'est fort? Et ben voilà, j'ai essayé de donner quelques éléments de réponse.
C'est vrai que c'est un vrai mystère, quoi.
Il y aurait là, moi je pense qu'il y a un peu l'antéposition de l'adverbe, par exemple, longtemps. Et il commence par longtemps, il ne dit pas je me suis longtemps couché de bonheur. Tu sais, je me suis longtemps couché de bonheur, tout de suite ça sonne moins bien. Et donc il antépose, et en plus il se trouve que le livre parle du temps, donc c'est quand même très beau de commencer par longtemps.
Vous avez préfacé Journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos qui est là.
Ouais.
Avec une très belle couverture d'ailleurs, qui correspond là, qui biaise un peu, mais
non, c'est ça, bien, c'est ouais, ça l'idée, quoi. Voilà, c'est sobre.
On voit donc un petit village, quoi, une petite église, dans un ciel, un soleil couchant, mais qui n'est pas paradisiaque, qui est un truc de campagne, de village. C'est vrai que elle est bien faite, la couverture. Mais alors, comment vous êtes arrivé à préfacer Bernanos? Est-ce que c'est intimidant de préfacer un tel auteur?
Oui, un peu, mais on me l'avait demandé parce que j'avais écrit un livre avec un ami, on avait écrit une espèce de livre correspondance, un livre épistolaire sur le rapport au christianisme, parce que lui était croyant, moi je ne le suis pas, mais intéressé par le christianisme. On l'avait publié chez Albin Michel, et Jean Moutapa, qui nous éditait, m'avait, comme je parlais beaucoup de Bernanos dans ce bouquin, m'avait dit, mais dis donc, tu as l'air très 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 fan de Bernanos, est-ce que tu voudrais pas préfacer le journal de l'incurie de campagne que tu as l'air de beaucoup aimer, parce qu'on est en train de le rééditer, puis voilà, je suis parti. Alors évidemment, c'est un peu impressionnant, mais je crois que parfois, il faut aussi avoir l'arrogance, ou en fait, au bout du compte, la modestie, de se dire, mais pourquoi je n'écrirai pas sur Bernanos, quoi. Enfin, il ne faut pas se laisser impressionner non plus, même si c'est un des auteurs pour lesquels j'ai le plus d'admiration. J'avais envie de rendre compte de l'émotion que me procure ce livre depuis longtemps, quoi. À chaque fois que je le relis,
Et pourquoi ?
C'est un des rares livres qui me fait pleurer, par exemple. Je pleure très peu devant les livres.
Et donc, c'est l'histoire d'un curé de campagne qui raconte ce qu'il fait dans le village, son rapport aux ouailles.
Ce qui est beau, c'est que pour moi, c'est d'abord l'histoire d'un prolo, en fait. C'est un curé prolo et qui vit parmi des prolos, même s'il y a des histoires avec les châtelains, des choses comme ça. Ce qui est très beau, c'est qu'il est démuni, ce curé, et c'est qu'il est à la fois censé soutenir ses ouailles, être l'épaule qui soutient les pauvres âmes perdues de ce village, et lui-même est perdu, lui-même est faible, et c'est sa faiblesse qui est belle. C'est la faiblesse, c'est ce que j'aime dans le Christ, par exemple, qui est une figure que j'aime bien, c'est que c'est le sauveur avec un grand S, et en même temps, quelle faiblesse, quelle tendresse. Quelle petitesse c'est ça qui est très émouvant, je pense, dans le Christ. Et comme notre curé, là, c'est un peu une sorte de Christ du XXe siècle, je pense que c'est comme ça que Bernanos l'a conçu, il reconduit ce mélange de force et de faiblesse que je trouve émouvant. Bon, et par ailleurs, sa fin est assez émouvante. Ça, je renvoie les gens au livre s'ils ne l'ont pas lu. c'est une fin que je trouve une des plus poignantes de l'histoire de la littérature. Quoi.
Ah, vous avez Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe.
Ouais.
Dans une vieille édition de poche.
Ouais, mais ça date.
C'est un livre que vous avez lu gamin, ça.
Ouais, mais puis à mon avis, qui datait de mes parents. J'ai dû leur piquer, ou alors au grand frère.
Baudelaire, ça, c'est intéressant.
Mais oui. Et donc, j'ai pas lu depuis l'époque, mais alors, j'étais très ébloui par Poe, moi. Surtout en tant que... Ce qui m'a toujours intéressé chez lui, c'est le narrateur qu'il est, quoi. Je trouve que c'est un conteur génial. Génial. Parce que c'est tout un art de conter, quand même.
Et préfacé par Alfred Hitchcock.
Ouais, donc voilà, c'était un peu triplé gagnant, quoi. Allan Poe, Hitchcock, Baudelaire, ça va. C'est pas mal.
Hitchcock, ouais.
Pour faire un dîner, par exemple, c'est plutôt pas mal comme, comme invité.
Il n'a pas une tête sympathique, il y a sa gravure au dos.
Ouais.
Comme vous parlez de dîner, ce serait quoi votre dîner avec quels écrivains morts vous dîneriez? Vous avez le droit à 4 invités, tiens.
Alors bon, je vais prendre ceux qui me viennent là, mais le premier qui me vient, c'est Diderot, parce que j'ai toujours pensé que Diderot, par-delà l'admiration que j'ai pour lui, était un bon vivant, un grand vivant, et que je pense qu'il ne devait pas être ennuyeux, le Diderot. Ça se sent dans ses livres, il y a une jubilation, il y a une vitalité.
Vous prenez Dumas, alors ?
Dumas, je connais... Alors vraiment, j'ai un trou sur Dumas, j'ai une faille, un manquement, mais que je corrigerai un jour, peut-être cet été. Parce que je crois que j'ai lu alors les Trois Mousquetaires quand j'avais 15 ans et j'ai plus jamais touché à Dumas. Mais pas du tout par répulsion, je pense que c'est très bien. Mais non, donc il n'est pas dans mon... Mais dans le genre conteur, il y en a un que j'ai beaucoup étudié et aimé, c'est Faulkner. Alors moi, je pense que lui, c'est le type qui est typiquement, vous l'invitez à dîner, il vous raconte une histoire.
Faulkner et Diderot.
Ouais. Mmh. Diderot pour les blagues. Les blagues un peu grivoises, d'ailleurs, je pense. Diderot était un peu libertin à ses heures. Et Faulkner, plus sérieux, attention, plus puritain. Mais lui, il raconte des histoires. Mais des histoires qui vont durer donc 4 jours.
D'ailleurs, il vous faut absolument des gens qui racontent des histoires pour le dîner ou...
bah, je trouve que c'est... les gens qui savent bien raconter, c'est quand même, sont toujours d'une bonne compagnie. Quoi. Il n'y a rien de pire, inversement, que ceux qui veulent absolument vous raconter des trucs.
Et c'est pas bien fait.
Ils ne sont pas bons, quoi. Et donc, ils rient, par exemple, eux-mêmes
avant la fin
de la chute de leur récit, avant même qu'il soit avéré. Donc, c'est très gênant, c'est très crispant. Le bon conteur, c'est... Ah ouais, j'adore. Ouais.
Donc, on a Faulkner, Diderot.
Il y a une femme que j'aurais bien aimé rencontrer. Alors, mais elle, c'est un sujet, elle est hors compétition, quoi. C'est Simone Veil, la philosophe, la mystique.
Avec un W.
Voilà. Elle, j'aurais bien aimé la rencontrer. Bah, d'abord, j'ai une admiration mais infinie pour elle. Elle m'émeut énormément. Sa vie est pratiquement une succession de douleurs, en fait. C'est une vie douloureuse. Et en même temps, c'est une intelligence, mais je veux dire, très, très, très au-dessus des mortels, quoi. Et elle, j'aurais bien aimé la cuisiner un peu, Simone, lui, pour poser plein de questions que m'évoquent ses textes, que je lis souvent.
Tiens, en voilà un d'auteur intéressant aussi, c'est Pierre Michon. Ah bah, c'est Vie minuscule en plus,
bah
c'est,
oui,
son,
le
c'est classique. Son hit. Mais Pierre Michon, c'est intéressant parce que c'est à la fois un écrivain culte pour beaucoup de gens, mais qui en même temps vend pas des palettes de livres, quoi. C'est-à-dire, c'est
je sais pas...
pas.
Ouais, je connais pas du tout ces scores.
Peut-être Vie minuscule, mais enfin, c'est pas... C'est... Je veux dire, Pierre Michon, si on fait un sondage, c'est pas un écrivain très grand public, quoi. La formule est mal trouvée, parce que grand public, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est étonnant, je trouve, que malgré son talent et malgré surtout la communauté qu'il crée autour de ses écrits, il soit pas une sorte de monument national, justement.
Bah, d'abord, il faut voir... que moi, ce que ça m'évoque, ce que vous dites, c'est... Ce qui est sans doute très vrai, mais... Ce que ça m'évoque, d'abord, il fait des livres qui ne peuvent pas accéder, à mon avis, au grand public pour une raison simple, c'est qu'il fait des livres qui ne sont pas narratifs. Et c'est quand même un peu le Graal pour accéder à un public large, et vous raconter un peu des histoires, vraies ou fausses d'ailleurs, c'est pas le sujet. Plutôt vraies d'ailleurs en ce moment. On est plutôt dans une période où l'histoire vérace est plutôt primée. Donc Michon, et puis il a une langue un peu âpre, hein. Il a une langue assez obscure par moments, très serrée, très parfois précieuse, mais moi j'aime beaucoup. Donc non, je pense que la facture même de ces textes font que ça ne peut pas forcément être très très large, quoi. Et je pense que c'est typiquement, effectivement, ce qui résoudrait le paradoxe. Il y a des écrivains comme ça qui sont très aimés par les écrivains. Voilà, parce que les écrivains reconnaissent, par exemple dans Michon... Comment dire ? Je pense que c'est comme les peintres, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'avance et on voit que lui, il a la main, quoi. Il a une main.
Ouais.
il a un savoir-faire, il a quelque chose, quoi, et on a envie de le copier. D'ailleurs, Michon a été beaucoup copié par des écrivains. Il est très aimé par des écrivains et parfois même copié plus ou moins bien, d'ailleurs, parfois bien. En tout cas, il a inspiré énormément de gens. Donc, c'est une certaine... Bon, Chevillard, par exemple, pour y revenir, je sais qu'ils ne vont pas beaucoup, Chevillard, depuis 20 ans. Parce que, voilà, par une fois, ce n'est pas narratif, c'est un peu absurde, on est à la limite de la fantaisie. Il est souvent assez aimé par des écrivains, Éric Chevillard, parce que c'est un styliste. Et donc, quand on lit du Chevillard, c'est comme si on avait des exemples d'une espèce de technique de phrase qu'on a envie de reconduire. Il y a quelques exemples comme ça de gens qui sont effectivement plutôt des... Comme il y a des musiciens qui sont essentiellement aimés par des musiciens, je pense, ça existe, ça.
Mais c'est injuste ou pas ?
Non. Moi, je trouve pas que...
Parce qu'il y a des vraies répercussions, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'argent, par exemple.
Ouais, mais si on commence par... De toute façon, moi, je pense que la distribution des prix, enfin, en tout cas, des suffrages autour de la culture en général, est fondamentalement injuste. Il y a tout un tas de gens très médiocres qui ont beaucoup de succès, puis il y a tout un tas de gens très, très estimables qui n'ont pas de succès. Mais ça, c'est vieux comme la culture, quoi, ou l'art. Donc moi, c'est ce que je dis toujours un petit peu à mes collègues écrivains. Je leur dis, écoutez, les mecs, en même temps, ou les filles, vous savez pourquoi vous avez signé en entrant là-dedans, quoi. Parce qu'ils sont toujours...
Oui, on est pas pris au traître.
Quand même, on est au courant quand même que Julien Gracq a jamais beaucoup vendu.
C'est fou.
Ben voilà, et je pourrais citer plein d'autres noms. Alors, il arrive parfois des conjonctions entre le génie et le suffrage. Proust, Dostoïevski...
Jean Richnoz.
Jean Echenoz, absolument, un de mes écrivains préférés vivants. Ouais, tout à fait. Mais Echenoz, comme par hasard, et c'est vraiment un de mes écrivains préférés, il fait du récit. Il a une langue qui est relativement accueillante. Il est pas très... sa langue est pas clivante. C'est comme la langue de Houellebecq.
Accueillante.
La langue de Houellebecq, elle est extrêmement accueillante. Je veux dire, ça se lit, ça se bouffe quoi, tranquillement. Quoi. Il y a pas vraiment d'épaisseur formelle.
Ah oui, il y a du Houellebecq ou pas, tiens ?
Ah oui, à H comme Houellebecq. Oui.
Comme s'il y avait un classement alphabétique.
Mais si, monsieur, regardez, je suis organisé.
En plus, si.
Je suis sûr que si on regarde de ce côté...
Ah oui, tiens, dis donc. Ah,
regardez. Beaucoup mieux organisé qu'on le pense.
Garcia.
Alors, je sais...
Giono...
Pourtant, j'en ai acheté les Houellebecq. Donc
ah, il doit être derrière la pile.
Ah, peut-être, ouais. C'est pas que je le cache. Hein. Mais non. Ah, si, ils sont tout au bout là-bas. Il y a tout au bout.
Ah, voilà.
Il y a soumission, plateforme.
Ah oui, c'est.
La carte et le territoire. La
possibilité d'une île. Ouais, il y a tout.
Ouais, voilà.
Houellebecq, vous le lisez à chaque fois avec plaisir. Vous êtes un fou de Houellebecq, un anti, ni l'un ni l'autre ?
Non, je suis ni l'un ni l'autre, je ne suis pas un fou du tout, je ne suis pas un anti. Non, je le lis, mais je pense qu'il y a quelque chose de toujours plaisant à lire Houellebecq pour les raisons que j'ai dites, quoi, parce que ça coule tout seul. Quoi. Et puis, il y a presque un plaisir un peu paradoxal à le voir constamment revenir à ses obsessions. Après, j'ai arrêté. J'ai décidé, il y a deux livres, d'arrêter de lire Houellebecq.
Ah bon, pourquoi ?
Parce que je l'ai trop lu. Parce qu'il y a des écrivains que je n'ai pas assez lus et qu'il faudrait que je lise.
Quoi.
Regardez, je n'ai pas lu Dumas. Il serait temps que je m'y mette. Donc, Houellebecq, j'ai donné. J'en ai lu 6-7. En plus, je considère qu'il écrit toujours un peu le même livre. Moi, je pense que j'ai fait le tour.
Je vois un livre que j'aime beaucoup, un tout petit, Bartleby le scribe.
Ah oui, bah alors là, oui.
De Melville. C'est le copiste d'une étude notariale qui dit à son patron « Je préférerais pas.
Ouais. »«
I would prefer not to. »
Ouais.
D'ailleurs, vous êtes pour quelle traduction, vous ?
Moi, j'aime bien. Bah, alors, moi, j'avais fait une chanson quand je faisais du rock. Elle s'appelait I Would Prefer Not To, mais dans le refrain, je disais j'aimerais mieux pas. J'aime bien l'expression j'aimerais mieux pas aussi. Mais je préférerais pas est pas mal aussi.
Il y a une bataille
où j'aimerais mieux ne
très
pas.
Intense de traducteurs sur la question.
Ouais. Ouais, après, dans tous les cas de figure, ça reste une formule géniale. Quoi. C'est pour moi la formule de la subversion totale. Quoi.
Il vous suit depuis longtemps, Bartleby ?
Bah, au moins depuis cette chanson, parce que cette chanson, j'ai écrite en 1998.
Que vous le connaissiez déjà ?
Ouais. Et donc, j'avais dû lire Bartleby, je pense, quand j'avais 22, 23 ans, je pense. D'ailleurs, on est nombreux à être arrivés à Bartleby par Deleuze, je crois, parce qu'il y a un texte fameux de Deleuze sur Bartleby. Et voilà. Et j'aime bien Melville en général.
Beaucoup, beaucoup de Nabokov aussi.
Ouais, bah je dis souvent.
C'est un effet du classement alphabétique.
On est dans N, là.
Alors, ouais, il est là aussi.
Il est là. Ça, j'en ai lu très peu là-dedans. C'est un recueil de nouvelles. Ça, j'ai lu. C'est vraiment pas mon préféré, La Défense Longine. Je crois que c'est un livre qui m'a échappé. Mais je fais partie, très banalement, des fans de Lolita. Voilà.
Je voudrais terminer avec ce chef-d'œuvre, American Psycho de Bret Easton Ellis,
oui.
Qui est dans votre bibliothèque en version poche chez 10-18, avec encore une belle illustration, un verre à whisky cassé en gros plan, comme ça. Il est là par hasard ou c'est un de vos romans?
Je crois que je ne l'ai pas lu dans cette édition-là. Je ne sais pas ce que ça fout là, parce que je l'ai lu moi en folio, je crois, à l'époque. Non, alors moi, je ne trouve pas du tout que ce soit un chef-d'œuvre.
Ah, d'accord.
Pas du tout.
Je l'ai vu à votre regard.
Je serais même pas loin de considérer que c'est objectivement pas un chef-d'œuvre.
Pourquoi?
C'est un livre important, c'est un livre qui a beaucoup d'intérêt, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre parce qu'à un moment, il se perd. Et à un moment, il se perd. Et c'est-à-dire que la cocaïne a bon dos, je trouve. Et le délire...
C'est, j'allais vous dire justement, oui, c'est l'idée.
Moi, je vais vous dire un truc énorme. Hein, et il y a vraiment des livres de Bret Easton que je préfère à soi. Moi, je préfère les premiers, moi, en fait.
Moins que zéro.
Voilà. Là, je trouve que c'est
sur
tenu.
La jeunesse dorée de Los Angeles.
C'est tenu. J'aime beaucoup la sobriété de son style. Après, quand il est parti là dans sa trilogie, bah, celui-là, Glamorama, je crois.
Glamorama.
Et puis il y en a un troisième que j'ai oublié.
Lunar Park. Non.
Lunar Park, ça j'aimais plutôt bien parce qu'il revenait à sa première facture.
Ouais.
Non, mais moi je.
American Psycho, je rappelle, c'est juste un trader qui est en fait obsédé par la consommation, ouais. Et ses costumes et les restaurants, et qui en fait le soir se transforme en une sorte de monstre serial killer ouais. Hyper violent, mais c'est peut-être juste un rêve, on ne sait pas trop.
Tout à fait, mais trop facile pour moi.
Trop même pour
facile
l'époque.
Et. Ouais, bah, l'époque elle n'est pas
enfin, si. Il dit quelque chose,
si ancien,
quand même.
Il a créé
un personnage. Un archétype, c'est fort, quoi.
Patrick bah oui, mais non, mais pour moi l'archétype il ne fonctionne pas parce qu'il est beaucoup trop excessif. Alors évidemment, ça, c'est fait pour. C'est dire, on aurait dit qu'on radicaliserait la monstruosité contenue dans les traders, et donc le type, c'est tout simplement un serial killer. Oui, mais moi, je trouve que du coup, on rate les traders, parce que c'est plus subtil que ça, en fait. Moi, j'aime bien être dans le subtil, quand même. Et donc là, et même c'est, en termes de facilité d'écriture, moi, je me souviens que les crimes ont fini par me gonfler. J'en avais marre, moi, de le voir dépecer tout le monde. Je trouve un livre comme Crime et Châtiment beaucoup plus effrayant, alors qu'il n'y a qu'un seul crime. Parce que c'est du crime à visage humain. Là, à un moment, son héros devient... Mais je pense qu'il y a un vrai problème, la cocaïne, dans l'écriture, moi, je pense. Il ne faut pas trop se cocaïner quand on écrit.
Vous avez dit, objectivement, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Ouais. Alors, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut objectiver les valeurs ou est-ce que chacun ses goûts?
Bah, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que j'allais dire un truc scandaleux, parce que le mot d'objectivité, en général, il a rien à faire dans l'art. Bon, et c'est ça qui est beau, c'est que tout est subjectif. En même temps, moi, je pense que quand même, bah, sinon, il n'y aurait pas de critique littéraire.
Et, oui.
Et donc, la critique littéraire, elle se propose de faire un truc assez fou, c'est d'essayer d'objectiver la subjectivité. Et donc, on peut quand même essayer de se donner quelques critères. Et après, chacun sera renvoyé à ses goûts. C'est-à-dire que moi, je ne vous convaincrai pas que American Psycho est un livre finalement assez moyen. Je vais voilà, et vous allez rester convaincu que vous, de toute façon, vous l'avez adoré, et voilà quoi, et c'est super. En revanche, dans la discussion, bah, peut-être qu'on peut essayer de s'entendre sur quelques critères. Ce que un petit peu j'ai essayé de faire comme ça sauvagement. Bah, sinon, c'est vrai que
considérer que le rythme est bancal ou
ouais.
Que c'est il y a des parties en trop,
c'est ou... ça. Moi, je dirais trop long, trop répétitif, trop. Et moi, quand je le lisais, je me souviens très bien, mais dites facile.
Mais je ne parlais pas d'American Psycho. Hein.
Oui,
c'était
oui.
Des exemples généraux, attention.
Non, mais oui, il y a des critères quand même. Ouais, on peut se donner quelques critères objectifs. Ouais. Par exemple, on peut se donner comme critère la singularité. Quand vous voyez, là récemment, je faisais une critique de Hit de Michael Mann. On est revenu dessus avec dans mon podcast. Mais il n'y a pas une scène que je n'ai pas déjà vue. Donc je trouve que c'est bizarre de trouver que ce film est génial alors qu'en fait il ne fait que reproduire des scènes qu'on a déjà vues. C'est un critère.
Non mais c'est un blasphème en fait de dire que c'est pas bon. Vous savez, on dit pas c'est de la merde, on dit j'aime pas.
Oui.
Comme s'il y avait pas c'est pas nous qui parlions quand on dit c'est pas ouais. Bon quoi.
Et je pense
c'est
que...
un truc on n'a pas vraiment le droit en fait de généraliser. Bah, c'est mystérieux d'ailleurs.
Et Dieu sait si pourtant les critiques se gênent pas parce que ça vient.
Souvent, oui, on a le droit.
Oralement, on commence par avoir des précautions locutoires du genre non, mais moi je n'aime pas, je ne prétends pas objectiver. Puis finalement, à la fin, on dit non, mais c'est de la merde objectivement. Donc je pense que. Mais ça, je pense que je vais citer un livre que j'ai jamais lu, qui est le livre de Kant sur l'art. Mais je pense qu'il avait touché un truc pas mal. C'était quand on est devant une œuvre d'art, c'est un des rares trucs où on sait bien que c'est un goût personnel, mais on a tout de suite envie de l'universaliser. C'est ça, là. Alors qu'on ne le fera pas du tout pour un moelleux au chocolat, par exemple. Moelleux au chocolat, on adore ça. Mais on n'a pas tout de suite envie de démontrer que c'est objectivement du génie universel, quoi. L'art, et donc c'est pour ça qu'on s'engueule beaucoup sur l'art, quoi. Que ça devient, que des fois c'est une boucherie, des discussions sur une œuvre, parce que ça serait pas une boucherie si tout simplement vous aimez pas, j'aime, vous aimez, enfin, ou l'inverse. Sauf qu'en fait, non, on a quand même cette pulsion un peu de dire non, mais désolé, objectivement, Proust c'est mieux que Mauriac.
Objectivement, la critique de la faculté de juger est un livre, un grand livre.
Et que faut, je n'ai pas lu.
Mais objectivement, il est ardu.
Ouais, oui, Kant, oui, j'ai un peu renoncé jeune.
Merci beaucoup, François Bégodeau.
Ben, c'est moi. Je suis désolé de vous avoir accueilli dans une bibliothèque aussi désordonnée.
Ah non, ben, je préfère, c'est encore mieux. Merci beaucoup.
Retour à Europe 1 et je rappelle Ma cruauté, c'est le nouveau livre de François Bégodeau, c'est chez Vertical. Irène Frein, vous êtes toujours avec nous pour l'allégresse de la femme solitaire au seuil. Comment sont rangés les livres chez vous?
Il y a une partie rangée, notamment les livres d'art. J'en ai une quantité et on a décidé de faire une bibliothèque dans la salle à manger. C'est donc quand on dîne chez moi, autour de la grande table, c'est autour de livres qui ne parlent que de beauté ou d'histoire. Et ça, c'est à peu près rangé, parce que ce n'est pas moi qui ai fait le rangement, c'est mon mari. Et ailleurs, les Pléiades sont rangées, les livres anciens sont rangés dans
Vous êtes collectionneuse de livres anciens?
Oui, avec mon mari, on en a collectionné quelques-uns, surtout quand il m'a rencontré, son premier cadeau a été les Confessions de Rousseau dans une... édition du 18e.
Ah oui, ça avait vous parlé.
Oui, ça avait y aller. Oui, oui. Mais à l'époque, on en trouvait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les quais. Et pour mon anniversaire, je pense, de mes 18 ans. Et c'est toujours là. Donc on a... Et puis, il y a...
Vous êtes avec le même homme depuis vos 18 ans?
Je suis une amoureuse têtue, obstinée, mais je pense que lui aussi. Donc, c'est parfois fracassant, dans le sens où, bon, il y a des étincelles, mais c'est ça qui est bien. Et puis après, quand on vieillit, c'est comme le bon vin. Et je crois qu'on a toujours sourire, c'est le secret. Donc, il y a beaucoup aussi de bandes dessinées, mais ça, c'est plutôt mon mari. Puis alors, il y a mes livres à moi. Alors, les livres, donc, je me sers pour travailler. Ça, je m'y retrouve encore un peu, mais je suis périodiquement obligée de les descendre à la cave parce qu'il n'y a plus de place. Elles sont dans des cartons. Et alors, il y a les livres que je reçois, je lis. Et il y en a dans des placards, mais il y en a aussi partout. Donc, voilà. Et moi, je revendique... je peux dire un gros mot?
Oui.
Bon, je revendique mon bordel organisé. Ah,
quand même pas un aussi gros mot, quand même, Irène Frein.
Oui, à mon âge, je devrais faire attention, la grand-mère.
On pourra venir visiter un jour?
Donc, par moments, il faut enjamber. Et je ne rangerai pas, je vous promets, pour votre visite.
Ça marche, rendez-vous est pris.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour, toujours avec Irène Frein, et nous partons chez notre libraire Marie-Ève Charbonnier, librairie Parole à Saint-Mandé. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir dans la librairie Parole. Trois coups de cœur aujourd'hui, et on commence par se mettre à table, si j'ai bien compris, puisque ça s'appelle Le Festin, c'est ça?
Exactement. Alors, trois coups de cœur. Le premier, c'est un livre qui est paru aux éditions de la Table Ronde de Margaret Kennedy, un livre qui a été écrit il y a un petit moment maintenant, mais qui vient juste d'être traduit. So British, quoi. Alors, on est dans plein milieu de l'Angleterre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une famille anglaise qui, pour gagner un peu de sous, reconvertit sa maison de famille en pension de famille. Pas de bol, et là je spoil rien parce que c'est vraiment le tout début du bouquin. La maison en question, elle est au pied d'une falaise, un peu délabré, et la falaise va s'écrouler et il va y avoir des morts. On le sait dès le début.
On le sait même sur la couverture. On voit un gros rocher qui est en train de tomber de la falaise sur une petite maison. Ça va mal se passer.
Ouais, exactement. Et donc au tout début, on apprend ça. Et en fait, on l'apprend par la bouche d'un prêtre qui est en train de préparer l'homélie qu'il doit faire pour les morts en question et qui va raconter à son copain curé ce qui s'est passé les 7 jours précédant l'écroulement de la falaise. Et alors là, c'est vraiment délicieux parce qu'on voit toutes ces familles arriver dans la pension, des liens qui se nouent, des histoires incroyables, des jalousies, des amours. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients sont là. C'est hyper ironique, c'est drôle, c'est cruel, c'est tendre. Et voilà, c'est vraiment, vous allez passer un moment très, très joyeux. Et même s'il y a des morts, finalement, c'est pas si triste que ça. C'est un côté presque thriller, sans en être.
À l'anglaise, quoi. Le Festin, Margaret Kennedy, c'est chez ?
C'est chez Kay Voltaire, La Table Ronde. Et c'est traduit par Denise Van Maupes.
Parfait. Donc, Le Festin, ça, c'est bon. Ensuite, on a des nouvelles. Ça, j'adore les nouvelles. On n'en parle pas assez.
Voilà, exactement. On ne parle pas assez des nouvelles. Il y a toujours des amateurs de nouvelles. Là, en plus, le titre est incroyable. 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuveries. Et il faut lire la nouvelle pour comprendre le titre. Vous allez voir, c'est très marrant. Ça permet aussi de parler d'un tout petit, enfin tout petit, non pas si petit que ça, mais en tout cas un éditeur qui est peut-être pas si connu que les autres, qui s'appelle Au Vent des Îles et qui est spécialisé justement dans la littérature, comme son nom l'indique, des îles. Donc là, Hawaï. Une dizaine de nouvelles, toutes plus rigolotes les unes que les autres, ou pas d'ailleurs, et surtout d'une écriture absolument incroyable. Alors là aussi, un énorme effort de traduction, parce que l'autrice va, c'est à la fois de l'anglais, mais mêlé de créole et de langage haïtien et hawaïen. Et c'est totalement incroyable. Donc, ça permet vraiment de prendre la température de ce que c'est qu'Hawaï, et notamment des femmes à Hawaï. Et vous allez voir, vous allez complètement voyager avant les vacances.
Deux, parce que vous avez fait un refus d'obstacle pour l'auteur, Christiana Kaakowila, traduction Mireille Vignol. Il nous reste 30 secondes, 40 secondes pour parler d'un dernier livre qui vous tenait à cœur.
Alors oui, un dernier livre qui s'appelle Génération T pour la Terre, un recueil de nouvelles, là encore, vous allez dire que je ne lis que des nouvelles, c'est pas tout à fait faux. Ça permet là aussi de parler d'une petite maison d'édition qui s'appelle Terre Urbaine, spécialisée en territoire et écologie, et qui a donné la parole en fait à des jeunes auteurs, 18-35 ans, lors d'un concours. Le livre et le recueil justement de ces nouvelles qui ont été choisies parmi plus de 70 nouvelles envoyé par les jeunes. Et franchement, au-delà du propos qui est quand même hyper intéressant, donner la parole à ces jeunes sur la terre et l'environnement, vous allez voir, la qualité littéraire est bluffante. Il y a des nouvelles à chute, des nouvelles qui, là aussi, permettent de prendre la température, c'est le cas de le dire, de la terre aujourd'hui et de la jeunesse et la vision qu'ils ont. C'est à la fois un peu pessimiste et en même temps assez encourageant.
Il faut un peu forcer la voix parce qu'il y a beaucoup de monde dans la librairie. Ça revient là, après la présidentielle, ça frémit là, on sent.
On sent que ça reprend et heureusement, les clients sont là. Ils nous ont beaucoup soutenus, y compris pendant ces mois un peu creux. Et on est content de les retrouver aujourd'hui.
On a dit donc Génération T pour la Terre, recueil de nouvelles aux éditions Terre Urbaine. 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuveries de Christiana Kaakowila, traduction de Mireille Vignol au Vent des Îles. Et puis Le Festin donc à la Table Ronde de Margaret Kennedy avec une merveilleuse illustration d'un type assez reconnu pour les illustrations de bouquins qui s'appelle Mathieu Persan, c'est ça ?
Tout à fait, Nicolas.
Merci beaucoup, Marie-Ève.
Merci à vous.
Retour à Europe 1 avec Irène Frein toujours et Sébastien Bordenave qui nous a rejoint pour sa chronique bande dessinée. Bonjour, bonjour Sébastien.
Bonjour Nicolas.
Je vous présente
bonjour
Irène Frein.
Bonjour.
Juste avant qu'on en vienne aux bandes dessinées, Irène Frein, vous m'avez dit pendant qu'on écoutait le coup de cœur des libraires que vous alliez parfois incognito dans les librairies.
Oui, parce que ça peut être déstabilisant pour le libraire de voir arriver un auteur. Il va se dire qu'est-ce qu'elle vient contrôler ? Elle va me faire un souk si je ne suis pas sur la table numéro 1, beau milieu,
en
entrée.
Et,
moi, je mets des lunettes noires et un chapeau et je fouine, je ne suis jamais reconnue. Et comme ça, je peux faire ce que je veux, reposer des livres, en prendre d'autres.
Vous n'êtes jamais reconnue, à mon avis, le libraire dit à son collègue... Ne dis rien, mais je crois que c'est Irène Frein.
Je ne crois pas, vraiment. Je sais vraiment disparaître. Je suis un peu comme le héros de mon livre de Dr. Shaw. Je pratique l'art de l'évaporation très facilement.
Un grand spécialiste du Shaw aussi, Sébastien Bordenave. Deux albums, comme toujours.
Oui, oui. Allez-y. Ce dimanche, deux très belles BD qui racontent, avec des bulles, deux destins contrariés aux éditions Steinkiss. D'abord, ça s'appelle Une vie en parallèle de Mathieu Lehmann. La BD fait plus de 450 pages, mais il faut bien ça pour raconter la vie de Karl Karl Kling, ça y est, pour lui, c'est la retraite. Il se retrouve donc au bar avec quelques collègues pour fêter ça. On évoque les voyages qu'il va pouvoir faire, quitter l'Allemagne pour visiter l'Italie. Oh, c'est vrai que les Italiennes, elles sont tellement belles. Sourire gêné autour de la table. Ça sera aussi l'occasion pour lui de se souvenir de son passé de militaire dans l'armée allemande, de ses relations avec ses amis, soldats, masculins. Et puis repenser aussi à ce premier mariage où son beau-père, qui était son patron et aussi le maire de la ville, lui disait « Tu vas rendre ma fille heureuse, n'est-ce pas? Tu as fait la guerre, tu as un homme, un vrai, toi. » En fait, son couple va exploser en plein vol car la pulsion est trop forte. Ce que Karl pensait n'être qu'une passade est en fait une irrépressible envie, un besoin vital. Karl aime les hommes et dans l'Allemagne de l'après-guerre, c'est plus que mal vu. Il faut savoir que chez nos amis teutons, en vrai, l'homosexualité a été punie jusqu'en 1994. Wow. Une vie parallèle chez Steinkist. Une très belle BD en noir et blanc aux traits poétiques qui tranche avec la dureté et la nostalgie du récit, ça raconte les mensonges, les dangers, la tristesse qu'entraîne parfois cette vie parallèle, justement une plongée historico-personnelle tout en finesse et en douceur dans un monde de brut.
C'est un pavé un peu.
Un beau pavé.
Ensuite,
La deuxième BD que Irène Frein compulse, la deuxième BD, c'est aussi un destin contrarié. Mais là, on change complètement d'ambiance. On est en mai 1836 au Texas, Cynthia. À 9 ans.
Pas elle... si loin de la Californie.
Le talent de Sébastien Bordenave qui nous trouve une bande dessinée en lien avec le roman d'Irène Frein.
Cynthia, à 9 ans, elle joue paisiblement quand des Comanches, des Kiowas, des Wichitas, bref, des Amérindiens, attaquent le fort où elle se trouve. Elle va perdre dramatiquement une grande partie de sa famille. Historiquement, on a appelé cet épisode le massacre de Fort Parker, parce que oui, tout est vrai dans cette BD. Ça raconte la vie de Cynthia Ann Parker qui, une fois enlevée, va devenir Comanche. Elle deviendra Nadua. Alors, comment on devient Comanche? Eh bien, avec le temps, elle va passer 24 ans avec cette nouvelle famille. Elle va épouser l'Indien Petanokona, qui avait d'ailleurs participé à son enlèvement. Il avait à l'époque 13 ans, c'était sa première bataille. Ces deux-là vont avoir 3 enfants, dont Kwana, qui sera un vrai guerrier Comanche, le dernier d'ailleurs. Et à l'âge de 34 ans, ça recommence pour elle, mais dans l'autre sens. La tribu indienne est attaquée, son mari est tué, et elle est ramenée contre son gré à la civilisation. Je mets bien sûr de gros guillemets à la civilisation. C'est toute cette histoire que raconte cette BD passionnante au scénario Séverine Vidal, qui est romancière, au dessin Vincent Sorel, qui publie à la fin de l'ouvrage ses plus beaux croquis d'Indiens, c'est sublime. Oui. Nadua chez Glénat, une histoire qui a d'ailleurs inspiré au cinéma le western La prisonnière du désert, réalisé par John Ford en 1956 avec John Wayne et Natalie Wood. Un petit bijou, voilà, je me prends un peu pour Eddie Mitchell dans la dernière séance.
Et puis l'autre, on rappelle Les vies parallèles.
Une vie en parallèle de Mathias Lehmann chez Steinkist.
Parfait. Vous n'avez pas une citation?
Allez, j'en ai une. On se quitte sur une citation d'un personnage BD. Aujourd'hui, c'est Snoopy. Ah. Il dit « Parfois, vous vous couchez la nuit et vous n'avez rien à craindre. Moi, ça m'inquiète toujours. » Voilà. Bon dimanche.
Irène Frein, vous lisez des bandes dessinées?
Mon mari a une énorme collection de bandes dessinées. Et donc, j'en vois à traîner. Et la dernière, celle que je suis en train de lire, c'est celle de Joanne Louis sur Fréhel, une sorte de roman graphique autour de la chanteuse d'avant-guerre, Fréhel, qui est un magnifique destin de féministe autant que de chanteuse.
Je rappelle donc Irène Frein, l'allégresse de la femme solitaire, c'est au seuil. Je signale aussi que vous êtes la marraine du festival du livre de Vannes. Lire à Vannes, ça s'appelle?
Oui, Lire à Vannes.
Ce sera du 10 au 12 juin à Vannes, évidemment, et on pourra vous y retrouver.
Et on ira...
Et j'y serai aussi, tiens.
Et voilà, on ira se promener dans le golfe du Morbihan et manger des langoustines.
Et lire l'allégresse de la femme solitaire. Merci beaucoup, Irène Frein.
Merci, Nicolas Caron.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuche pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Caron.